Chapitre 72. Quand il entendit des cris et des rugissements, Bannon devina ce qui se passait et l'espoir renaquit en lui. Le vacarme était pire que la fois précédente. Ce soir, ce n'était pas une escarmouche, mais la guerre. Collé au barreau de sa cellule, le jeune escrimeur vit des silhouettes en tunique sombre courir en tous sens dans le tunnel. Devant eux, ces rebelles poussaient des bêtes de combat déchaînées. Deux loups à pic passèrent devant la geôle, claquant des crocs, mais ils semblaient plus avides de fuir que d'attaquer. Dépassant sans leur accorder d'attention les dragons des marais qui avançaient à leur train de sénateurs, trois léopards filèrent comme des flèches vers la liberté. Désireux de s'enfuir comme les trois fauves, Bannon secoua la porte de sa cellule. Torse nu, un simple pagne autour de la taille, il était couvert de contusions. Malgré tout cela, grâce à l'entraînement avec Lila, il était plus fin et musclé que jamais. Mais qu'était-il devenu? Un vulgaire jouet qu'on jetterait bientôt dans l'arène pour amuser les citoyens d'Île Dakar.
« Faites-moi sortir !»
cria-t-il en secouant les barreaux. Les autres gladiateurs reprirent son cri.
« Oui, on veut sortir !»
Les rebelles ne se firent pas trop prier. S'étant emparés des clés, deux ou trois passèrent de cellule en cellule. Dans celle qui n'était pas encore ouverte, l'excitation monta.
« On veut sortir ! On veut sortir !»
Bientôt le tunnel grouilla de combattants aguerris et de jeunes recrues, aussi désorientés les uns que les autres par ce qui leur arrivait. Toujours enfermé, Bannon leur cria
« Vous savez vous battre, non? Prenez vos armes, nous allons lutter ensemble pour la liberté, si quelqu'un un jour me fait sortir de ce trou !»
Une rebelle accourut et chercha le regard de Bannon à travers les barreaux. Les yeux voilés, elle semblait d'un âge plus que certain. Pourtant, s'avisa le jeune escrimeur, elle ne devait pas avoir beaucoup plus de 40 ans, mais une existence entière à trimer sans espoir l'avait vidée de sa vitalité, comme une éponge qu'on tord et retord. Non sans difficulté, elle parvint à introduire la clé dans la serrure. Mais malgré ses efforts, rien ne se passa.
« Ce n'est pas la bonne clé !» dit Bannon. « Essayez la jaune, là !»
La femme obéit. Dehors, les combattants libérés se précipitaient vers les armes entassées dans un coin. Délaissant les lames de bois d'entraînement, ils se répartirent les épées courtes qu'ils utilisaient dans l'arène.
« Pour masque miroir !»
crièrent les rebelles, leur indiquant le nom à célébrer.
« Et pour Nietzsche ?»
ajoutèrent deux ou trois autres.
« Oui, pour Nietzsche !»
reprirent en cœur leurs compagnons. Le cœur de Bannon fit un bond dans sa poitrine.
« Nietzsche était ici !»
Enfin, la rebelle venait d'introduire la clé dans la serrure. Regardant Bannon, elle sourit aux anges. Hélas, avant qu'elle ait pu ouvrir, un dragon des marais lui sauta dessus et referma la gueule sur sa jambe gauche. Hurlant de douleur, elle s'accrocha au barreau pour ne pas être entraînée, mais le reptile n'eut aucun mal à l'en arracher. Bannon tendit les bras à travers les barreaux pour la rattraper. Trop puissant, le dragon la fit basculer sur le sol. Lâchant enfin sa jambe, il la mordit au bras, le sectionnant en deux. La clé, qu'elle tenait encore du bout des doigts, sortit de la serrure, tomba par terre et rebondit. Prêt à tout pour aider la femme, Bannon secoua en vain les barreaux. Quand le dragon des marais acheva sa proie d'une morsure à la gorge, le cadavre s'embrasa instantanément. Touché par les flammes, le monstre tenta de se rouler par terre, mais il était trop tard et il brûla lui aussi. Un drame de plus, la mort de cette femme. Et la cellule restait fermée. Pressant une épaule contre les barreaux, Bannon tendit le bras au maximum pour essayer d'attraper la clé. Après ce qui lui parut une éternité, le bout de ses doigts frôla enfin l'anneau du trousseau. Gagnant fraction de pouce après fraction de pouce, il ramena la clé vers lui, jusqu'à ce qu'il puisse la saisir, puis replier le bras, ému comme s'il venait de découvrir le plus précieux trésor de sa vie. Renversant la main, il tâtonna, finit par introduire la clé dans la serrure et entendit bientôt un clic libérateur. Épuisé moralement mais soulagé au-delà du disciple, le jeune escrimeur poussa la porte de sa cellule. Dehors, les rebelles et les gladiateurs libérés couraient dans tous les sens euphoriques.
« Bats-toi pour ta liberté !»
cria un type en tendant une épée à un vétéran chauve qu'il venait de libérer. Sans un mot, le gladiateur saisit l'arme puis transperça la poitrine de son bienfaiteur. Stupéfié, le rebelle mourut avant d'avoir vraiment compris ce qui lui arrivait. Comme tous les autres, il fut aussitôt carbonisé.
« Nous nous battons pour Île Dakar !»
dit le chauve.
« Pas pour masque miroir !»
Il avança, épée ensanglantée au poing. Les rebelles le regardèrent, ébahis qu'un esclave se soit retourné contre eux. Quatre gladiateurs fraîchement libérés vinrent à la rencontre de leurs camarades.
« Non, nous battons pour nous-mêmes et pour l'avenir !»
Surpris, le vétéran se défendit, mais il fut bientôt touché à l'épaule.
« Nous ne nous battons pas pour Adessa !»
lança un de ses adversaires.
« Ni pour la Sovréna !»
ajouta un autre en embrochant le guerrier chauve.
« Nous nous battons pour Masque Miroir et Nietzsche !»
crièrent en chœur les quatre hommes. Le vétéran fut vite submergé. La porte de sa cellule enfin ouverte, Bannon courut rejoindre les rebelles.
« Pour Nietzsche !»
cria-t-il. Avant tout, il lui fallait une arme. Non, pas une, la sienne. Justement, il savait que Lila gardait solide dans une haute niche murale. Sans se soucier des combats autour de lui, il gagna l'endroit, se hissa sur la pointe des pieds, tira l'arme de sa cachette et retira le morceau de tissu qui l'enveloppait.
« Douce mère, la mère !»
souffla-t-il quand ses doigts se refermèrent sur la poignée enveloppée de cuir. Il fit quelques pas à blanc, sentant l'énergie revenir au creux de son ventre, oubliant ses douleurs et ses cicatrices. Il allait se battre, puis retrouver ses amis.
« Nietzsche !»
cria-t-il exalté. À cause du linceul, il ne pourrait plus partir. Mais il leur restait une option, refonder la cité. Après une éternité à croupir dans les tunnels, Bannon trouvait cet objectif des plus motivants. Des types chargés d'entraîner les recrues, épées au poing, déboulèrent dans le tunnel. Moins bons que les Morassites, ces hommes avaient néanmoins poussé très durement les nouveaux venus, Bannon compris. Il se tourna vers eux, solide, levé. Le temps des exercices était révolu désormais.
« Dans vos cellules, esclaves !»
cria un de ces sales types. Trop sûr de lui, il bondit sur Bannon, se croyant invincible grâce à son bouclier. Voyant que sa proie ne bronchait pas, il hésita un peu, exactement ce qu'attendait le jeune escrimeur. Avec un cri de rage, il abattit solide sur le bouclier, frappant à coups redoublés jusqu'à ce que le poignet du guerrier cède sous les impacts. Saisant au vol l'occasion, Bannon changea de cible et ouvrit d'un seul coup la gorge exposée de son agresseur. Alors que l'homme s'écroulait, Bannon regarda le carnage qu'il venait de faire. Excellente formatrice, les Morassites lui avaient appris à oublier la pitié. Eh bien, c'était réussi. Tant mieux, en un sens. Avec le sang qu'il ferait encore couler cette nuit, Bannon n'était pas en position de se sentir coupable ou d'être révulsé par l'horreur des combats. Sachant ce qui lui restait à faire, il se faufila entre les animaux furieux, les rebelles et les gladiateurs libérés et courut jusqu'à la cellule de Yann. Le champion n'était pas sorti. Impassible, il observait les combats.
« Yann, ta porte n'est pas verrouillée, tu le sais. Pourquoi restes-tu là-dedans »
L'ami de Bannon réfléchit un long moment.
« Parce que c'est chez moi. »
Le jeune escrimeur saisit un barreau et ouvrit la porte.
« C'est faux. Ta maison, elle est ailleurs. Yann, tu n'aurais jamais dû être arraché à Shiria. Hélas, j'ai été lâche, mais c'est du passé désormais. Si le changer est impossible, aujourd'hui je peux te sauver. Viens avec moi, je t'en supplie, tu dois être libre. »
« Je le suis déjà. Le champion d'Ildakar ne porte pas de chaîne. »
« Après cette nuit, Dakar ne sera plus la même. Viens, allons dans les rues. »
Les bras croisés, le regard rivé sur son ancien ami. Yann resta impassible. Son visage prématurément vieilli, songea Bannon, était désormais celui d'un tueur.
« Me battre, c'est tout ce que je sais faire. Impossible de m'enfuir avec toi. »
« Non, tu te trompes. Si nous réussissons à neutraliser le linceul, le reste du monde sera à nous. J'ai tant de choses à te montrer. Mais pour commencer, il faut sortir d'ici. Lutte à mes côtés pour ce qui est noble et juste. »
Yann secoua la tête.
Si je m'en vais, que ferai-je de ma vie? Je suis le champion, mon destin est ici.
Captant un mouvement du coin de l'œil, Bannon tourna la tête et vit débouler une panthère qu'il reconnut au premier coup d'œil.
Mara!
Un couteau rouge de sang dans chaque main, Nietzsche suivait sa sœur d'élection.
Bannon Farmer! Bannon, où es-tu?
Après un dernier regard à Yann, Bannon se retourna.
« Magicienne, je suis là !»
Malgré le massacre en cours autour de lui, Bannon sentit son cœur se gonfler de joie.
« Viens avec moi, Yann !»
dit-il.
« Donne-toi une chance de commencer une nouvelle vie !»
Le champion recula au fond de sa cellule. En se jurant de revenir le chercher cette fois, Bannon se détourna et sortit rejoindre Nietzsche et sa panthère aux pattes et au museau empoissé de sang.
« Magicienne, je ne savais pas ce qu'il était advenu de toi !»
Maladroitement, le jeune homme tenta d'étreindre son ami.
« On m'a capturé, traîné ici et forcé à me battre. Où est Nathan ? Et que t'est-il arrivé ? On te disait morte ?»« Beaucoup trop de questions, comme d'habitude.
Tu as ton épée, à ce que je vois. Eh bien, c'est tout ce qu'il te faut. Pour les réponses, tu attendras.
Bannon, bats-toi avec nous.
Quand nous aurons libéré tout le monde ici, nous attaquerons le conseil. Thora veut tuer 300 esclaves pour rendre le linceul permanent. Ce soir.
Il faut l'en empêcher.
Heureusement, nous avons une armée.
Oui, une armée, répéta Nietzsche.
Enfin, nous en avons une.
Désormais, les combats se localisaient surtout dans la zone des fosses où Bannon avait tellement saigné et sué. Quand quatre rebelles s'embrasèrent quasiment en même temps, les gladiateurs reculèrent hésitants. Cinq Morassites, chacune munie de ses armes préférées, avancèrent vers les évadés.
« Dans vos cellules tous, dans vos cellules !»
Lorsqu'il vit Lila dans le lot, Bannon eut un pincement au cœur. Serrant plus fort solide, il se plaça entre Nietzsche et sa panthère. Le trio avança au pas, prêt à tout. Crépitant de magie, les cheveux de Nietzsche faisaient comme une queue de comète derrière sa tête.
« Les cellules ne retiendront plus ces hommes, » dit-elle aux Morassites, « et vous ne les contrôlez plus. »
Levant solide, Bannon afficha une bravoure qui n'était peut-être pas entièrement réelle.
« Nous vous combattrons et nous vaincrons !»
lança-t-il.
« Tant pis pour vous si vous nous avez trop bien entraînés !»
Avec un rictus, Lila avança vers le jeune homme.
« Je me suis seulement amusée avec toi, » ricana-t-elle. « Les vraies leçons seront pour ce soir. »
Une épée dans la main droite, Lila serrait son couteau dans la gauche. Certes, mais Bannon avait solide. Pendant que le jeune escrimeur ferraillait contre une des femmes en cuir noir, Nietzsche et Mara chargèrent les quatre autres, qui parurent surprises face à une telle combativité. Mordant et griffant, la panthère eut au fait de réduire en charpie une des guerrières. D'autres Morassites arrivèrent et le combat s'engagea au milieu des murets des diverses fosses. La plus proche de Bannon avait la paroi hérissée de pics afin d'interdire à un combattant d'en sortir. Tout en résistant à Lila, Bannon prit garde à rester loin du muret car il n'avait aucune envie de tomber dans la fosse. Sa formatrice, il l'entendait l'affronter sur un terrain dégagé. Quand il l'aurait vaincu, comme elle l'avait naguère battu, il sortirait des tunnels avec ses frères d'armes. Et avec Yann, espérait-il. Dans sa tenue de cuir plutôt affriolante, Lila n'avait rien de terrifiant. Mais Bannon ne se laissa pas prendre au piège, cette femme était mortellement dangereuse. Du bout de son épée, Lila décrivit des arabesques dans l'air. Une tactique connue visant à distraire l'adversaire. Désormais aguerri, Bannon en conclut que l'attaque viendrait du couteau dans la main gauche de la Morassite. Voilà comment elle avait l'intention de le tuer. Oui, Lila l'avait formé. Mais peut-être mieux qu'elle l'aurait dû pour son propre bien. Feignant de frapper avec son épée, elle décrivit un demi-cercle avec son couteau, cherchant le flanc de Bannon. En même temps qu'il esquivait, le jeune homme dévia avec solide la trajectoire de la petite lame, tordant au passage le poignet de la Morassite. Grimaçant de douleur, elle secoua frénétiquement la main, mais ne put pas s'empêcher de lâcher son arme qui tomba sur le sol, rebondit et disparut dans la fosse à la paroi hérissée de pics.
« Bien joué !»
s'écria Lila avec un mélange de haine et de fierté.
« Tu as retenu tes leçons, mon gars. Normal avec un bon professeur. Tout ce que tu m'as appris, je vais te le resservir ce soir. Tu n'as encore rien vu, mon pauvre garçon. Le plus intéressant est à venir, si tu ne crèves pas maintenant. Et si tu survis toi aussi.
Si je meurs, je te manquerai. »
Lila frappa. Avec sa lame plus longue, Bannon n'eut aucun mal à dévier le coup. De l'autre côté de la fosse, Nietzsche et Mara affrontaient deux Morassites. Du sang sourdait de la fourrure de la panthère qui bondit pourtant en avant et referma son énorme gueule sur le cou d'une des guerrières. Ses deux couteaux ébranlèrent, Nietzsche concentra sa magie sur la massue que maniait son adversaire. Quand l'arme s'embrasa entre ses mains, la guerrière, désorientée, la lança sur la magicienne visant la tête. Nietzsche lâcha un de ses couteaux, saisit au vol l'extrémité enflammée de la massue, souffla les flammes avec son don, puis plongea son autre lame dans la gorge de la moracite. Après avoir dégagé le couteau du cou de sa victime, Nietzsche la poussa dans la fosse. Son corps se fichant sur des pics, la morte n'arriva jamais en bas. On eût dit un insecte empalé sur une épine d'arbre par une pie grièche. Après avoir joué à défier Bannon, Lila se décida à passer aux choses sérieuses. Se jetant sur lui, elle enchaîna les frappes acculant le jeune escrimeur à la défensive. Déséquilibré, Bannon manqua à basculer en arrière. À droite, à repérer les détails de ce genre, Lila poussa son avantage. Sentant le muret de la fosse contre l'arrière de ses bottes, le jeune escrimeur évita la chute en enfonçant la pointe de solide dans le sol et en se retenant au muret de l'autre main. Son adversaire, incapable de se défendre, Lila arma son bras pour porter le coup de grâce. Elle s'immobilisa comme si quelqu'un venait de tirer sur une laisse invisible. Le regard voilé, blanche comme un linge, elle tomba à genoux puis s'écroula, révélant l'arrière de son crâne poisseux de sang. Yann se tenait derrière elle, une épée au poing. Pour assommer la moracite, il avait frappé du plat de la lame. Conscient d'être passé près de la mort, Bannon baissa les yeux sur le corps inerte de sa si jolie formatrice en sauvageries diverses et variées.
« Tu étais en mauvaise posture, » dit Yann, l'air troublé, « et je t'ai sauvé une fois de plus. »
« Merci, mon ami. »
Bannon eut du mal à contenir son émotion. Son vieux copain était enfin de retour.
« Cette fois, crois-moi, on s'en sortira tous les deux. »
Des moracites arrivant sans cesse par les tunnels latéraux, les combats continuèrent. Puis Adessa déboula, ses yeux noirs lançant des étincelles.
« Vous m'aurez cette nuit, » lança-t-elle. « Même si je dois vous tuer tous de mes mains !»
Le cœur de Bannon rata une pulsation. Les yeux durs, Yann se tourna vers Adessa et se mit en position de combat. Une machine à tuer, précise et sans passion. Bannon l'avait vu se battre dans l'arène, mais ce duel-là serait le plus difficile de sa vie. D'une main, Yann poussa Bannon pour lui signifier de ne pas s'en mêler.
« Pars d'ici !» « Fuis cet enfer !»« Pas sans toi. Cette fois, je ne t'abandonnerai pas. »
Yann regarda son ami du coin de l'œil.
« À cause de ta couardise, je suis devenu le meilleur combattant d'Ildakar. Laisse-moi le prouver à tout le monde. Bannon, ce coup-ci, c'est mon choix. Inutile de culpabiliser, mon vieil ami. »
Cherchant le regard du champion, Adessa avança, épée et poing ganté brandis.
« Viens, mon chéri, »
siffla-t-elle avec un rictus.
« Je ne me lasse jamais de sentir ton corps contre le mien. »
Yann se mit en garde. Sa lame levée, Adessa se prépara à tuer le jeune homme qui osait la défier. Bannon alla rejoindre Nietzsche et Mara pour le moment sans adversaire. Yann était prêt au combat, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa posture. Baissant son épée, il banda ses muscles, et sa main gauche, ouverte, l'orienta vers l'extérieur. Quand Adessa bondit, il tendit le bras, lui saisit le poignet gauche, puis d'un coup sec et rapide du pied droit, lui faucha les jambes, un modèle de balayage rapide et précis. Dans le même mouvement, il se laissa entraîner vers l'avant par son élan, perdant l'équilibre en même temps que la moracite. Sans hésiter, il la précipita avec lui dans la fosse toute proche.
« Yann, non !»
cria Bannon. Évitant par miracle les piques, les deux adversaires atterrirent rudement sur le mélange de sable et de cendres. Son épée lâchée pendant la chute, Adessa resta sonnée quelques secondes, puis elle se releva presque au même moment que Yann. Après s'être ébroué, le champion se mit en quête de son épée. L'ayant retrouvée, il se tourna vers Adessa. Encore désorientée et désarmée, la moracite faisait une proie facile. Mais l'instant passa, et Yann délibérément n'en avait pas profité. Sa lucidité recouvrée, Adessa décrocha de sa ceinture la pointe douleur à l'aspect faussement inoffensif.
« C'est comme ça que tu veux jouer, mon bel amant. Pense à tout le plaisir que je t'ai donné. Avec toi, c'était vraiment spécial. »«
Tu m'as beaucoup donné, oui. Et pas seulement du plaisir. »
Adessa tourna autour de Yann, qui l'atteint à distance avec sa lame, bien plus longue que l'aiguille de la pointe douleur. Quand elle repéra enfin son épée courte dans le sable, la guerrière bondit, se baissa, récupéra l'arme et se campa de nouveau face au champion. Penché dans le vide, Bannon dut se contenter de regarder. Sauter, c'était risquer de s'éventrer ou d'atterrir sur Yann et de les mettre tous les deux hors de combat. Partout, les hostilités avaient repris, alimentées par d'incessants renforts.
Si Yann se déconcentrait une fraction de seconde, il était perdu. En face de lui, il avait la meilleure moracite d'Ildakar.
Au milieu des attaques et des parades, la pointe douleur jaillissait régulièrement en direction de Yann, tel le dard d'une mante religieuse. Mais le champion, au moins aussi bon que son instructrice et amante, n'était pas homme à se laisser tuer ainsi. Se déchaînant soudain, Adessa parvint à entailler le bras du jeune homme, mais il la frappa du poing gauche, la cueillant au menton. Déséquilibrée, elle bascula en arrière, percuta la paroi et se blessa entre les omoplates contre une des piques. Apparemment insensible à la douleur, Adessa ne marqua même pas un temps d'arrêt. Repartant à l'attaque, elles ébranlèrent avec sa lame. Avec une maîtrise hors du commun, Yann dévia ou para tous les coups. Mais il y avait un problème. Le champion, comprit soudain Bannon, n'avait aucune envie de tuer Adessa.
« Que t'arrive-t-il, mon chéri ?»
le défia la Moracite.
« Tu as peur de moi ?»
Yann répliqua comme on l'avait dressé pour le faire. Rugissant de rage, il passa à l'attaque, toute retenue oubliée. Sous cette avalanche de coups, le poignet d'Adessa finit par céder et elle dut lâcher son arme. La frappant à la tempe avec le pommeau de son épée, Yann la poussa ensuite de sa main libre et l'envoya s'étaler dans le sable, sa tête à un pouce des piques mortelles.
« Je n'ai pas peur de toi !»
Sans arme, appuyée sur les coudes, sa blessure dans le dos pissant le sang, Adessa n'était plus qu'une agnelle promise au sacrifice. Yann approcha, prêt à lui donner le coup de grâce.
« Je suis ton amoureuse !»
minauda Adessa.
« As-tu oublié tout le plaisir que je t'ai donné ?»
Le visage de marbre, Yann baissa sa lame, visant le cœur. Mais il hésitait toujours, et Adessa le sentait.
« Tu ne peux pas me tuer, » dit-elle, « parce que tu ignores une information importante. Cher amour, depuis quelques semaines, je porte ton enfant. »
Stupéfié, Yann se déconcentra une fraction de seconde. Cela suffit. Passant une main sous son corps, Adessa en tira l'arme sur laquelle elle était tombée par le plus grand des hasards. Le couteau de Lila, projeté dans la fosse durant son combat contre Bannon. L'arme serrée dans la main gauche, encore indemne, la Moracite se détendit comme une vipère et se propulsa vers le haut par la seule force de ses jambes. À l'apogée de sa trajectoire, elle enfonça sa lame dans le cœur de Yann. Le champion eut un petit cri, cracha du sang, puis bascula en arrière.
« Yann !»
cria Bannon.
« Yann !»
Mais son ami était déjà mort, et il n'avait aucun moyen de châtier Adessa.
« Tu as réussi à m'énerver pour de bon, mon gars !»
lança une voix féminine familière. Bannon se retourna. Revenue à elle, Lila fonçait sur lui son épée brandie. Même en état de choc après la mort de son ami, Bannon se prépara à vendre chèrement sa peau. Il n'en eut pas besoin. Jaillissant derrière Lila, Nietzsche la sonna pour le compte avec le manche d'un de ses couteaux. Comme un arbre abattu, la Moracite s'écroula et ne bougea plus. Les yeux rivés sur elle, marafela. Tétanisé, Bannon baissa le regard sur le corps de son ami. Adessa le défia des yeux, certaine d'être hors d'atteinte. Du sang plein les cheveux, Lila n'avait pas encore repris conscience. Nietzsche aussi foudroyait Adessa du regard. Elle aussi aurait voulu descendre dans la fosse et la tailler en pièces, mais la vengeance serait pour plus tard.
Banon, on pourrait passer la nuit à se battre ici, mais nous avons beaucoup mieux à faire.
Il faut empêcher l'œuvre de sang. D'abord, essayons de trouver Nathan.